fauchée de Saint-Maurice à la Brunante. L'amiral du brouillard. Partie 1, le trésor de l'Anglais.
Largue l'écoute, nous arrivons.
As-tu emporté le petit Albert ?
Oui, Jacques, et par-dessus le marché, j'ai glissé dans le coffre de la chaloupe le dictionnaire infernal et le dragon rouge.
Tu as dû fièrement le voyer pour te procurer ces livres introuvables. J'aime à croire que tout ira bien maintenant, car moi, j'ai réussi à acheter une chandelle de graisse de mort. Passe les rames par-dessus les bancs, ferle la voile, prends le sac rouge et saute sur l'écran, j'en râpe le grappin et j'emporte les pelles et les piques.
Deux solides gaillards mirent pied à terre sur l'île aux œufs et se dirigèrent vers l'extrémité sud-ouest où gît un morne qui domine tristement le fleuve. Il commençait à faire nuit. Le flot déferlait avec une sourde mélancolie le long de la falaise. Partout s'allongeait un ciel gris. Les mouettes tournoyaient au loin, comme pour saisir entre leurs ailes blanches les premières voluptés de la tempête qui, noire et lourde, rongeait déjà les bords de l'horizon plombé et semblait surgir de l'immensité du golfe.
Ah! « Je crois que nous en tenons une rude, maître Louis, »
murmura Jacques en grimpant le long de la pente.
« Pourvu que les camarades de la goélette ne se mettent pas en peine de nous, ce serait embêtant tout de même s'ils venaient à se douter du but de notre voyage. »«
Bah, ils sont sauvés à l'heure qu'il est, et la brunette se balance tranquillement sur ses ancres dans la baie de cette île, défiant là le diable et tous les vents de l'enfer. »
« Ne crois-tu pas, maître Louis, qu'il soit temps d'entonner l'oraison des salamandres, ainsi que le prescrit le petit livre de l'Enchéridion ? Je la sais par cœur. »«
Cela ne peut être mauvais. D'après mes données, nous ne devons pas être bien loin de l'endroit où est enfoui le trésor de l'Anglais. Mais avant de psalmodier, il nous faut allumer notre précieuse chandelle de suif rouge. Passe-la-moi, j'ai mon briquet à la main. »
Note, c'est ainsi qu'en cabalistique, suif rouge se nomme une bougie confectionnée avec de la graisse de mort. Jacques déposa dans l'une des anfractuosités du rocher les deux pics et les deux pelles qu'il portait. Puis, s'asseyant sur le roc de manière à tourner le dos au couchant, il tira mystérieusement de son gousset une chandelle de maigre apparence enclavée dans un morceau de bois de coudrier taillé en forme de fer à cheval. Elle était composée de graisse de chrétiens et, une fois allumée selon les rites de Cardan, ne devait plus s'éteindre qu'à l'endroit précis où le trésor tant désiré était enfoui. Louis mit le feu sur la mèche en prononçant des paroles cabalistiques et, reprenant leur ascension, ils s'avancèrent en psalmodiant. Dès que la chandelle se mettait à vaciller, ils s'arrêtaient, ivre de désir et d'espoir. La lumière se redressait-elle vive et pétillante, nos deux rôdeurs reprenaient la tête basse leur marche nocturne. Cela durait depuis 20 minutes et, à mesure que Jacques et Louis s'avançaient, le trésor de l'Anglais semblait reculer devant eux. Ils étaient là, harassés, et déjà l'on se préparait à faire halte avant de rebrousser chemin vers la chaloupe, lorsque tout à coup l'obscurité se fit autour d'eux. La chandelle venait de s'éteindre. « C'est ici » murmurèrent-ils tous les deux ensemble. « Faisons le parfum du samedi et à l'œuvre avant que la tempête puisse nous pincer. » Vareuses et chapeaux roulèrent à terre, et Jacques ainsi que Louis se mirent à triturer cet arôme mystique d'après les règles d'Albert le Grand. Ils prirent dans le sac rouge de la graine de pavot noir et de jusquiame, de la racine de mandragore, de la poudre d'aimant et de la myrrhe. Après avoir pulvérisé le tout entre deux pierres blanches, ils y mêlèrent du sang de chauve-souris et de la cervelle de chat noir, puis en composèrent une pâte divisée en trois petites boules qu'ils firent sécher et brûler à la chandelle. Il ne restait plus à accomplir que les rites commandés par Jean Blic et Arbatel, et, marchant l'un vers l'autre, ils plantèrent, à main droite, une branche de laurier vert et à main gauche, une branche de verveine. Entre elles, la terre devait être creusée, et bientôt les pics se mirent à tomber avec une telle régularité qu'on eût dit un seul travailleur à l'œuvre. Sous leurs efforts, une fosse allait s'élargissant, et déjà elle avait atteint la hauteur d'un homme ordinaire, lorsque Jacques dit à Louis
« Il est temps maintenant d'enrouler ces branches de laurier et de verveine autour de nos chapeaux. Sais-tu où se trouvent les talismans ?»«
Ils sont dans mon mouchoir, les voici. »
Les as-tu bien préparés, Louison ?
D'après les recettes de l'art, rien de plus. Tu sais ce qu'Albert recommande. Prenez une plaque d'étain fin bien purifiée aux jours et aux heures de Jupiter. Formez-y d'un côté la figure de la fortune, et de l'autre, ses paroles en gros caractères. Amusin albo matatos. Tu vois, maître Jacques, que rien n'a été oublié.
Oui, oui, Louison, et je ne sais vraiment à qui sera la faute si l'on ne réussit pas. »
Ils attachèrent les talismans à leur chapeau ciré, et le bruit monotone du fer frappant la terre recommença. Le remblai montait toujours autour de ces deux hommes, lorsque tout à coup, Louis poussa un cri d'horreur.
« Regarde, Jacques, j'ai une tête de mort sous le pied !»
Jacques abattait son pic au moment où Louis faisait sa lugubre trouvaille. Un second crâne alla rouler auprès du premier.
« N'aie pas peur, Louison, j'ai prévu le cas. Et ce qui brûle là, dans nos lanternes, ce sont deux cierges bénis. Cardan ne dit-il pas, quand on a des raisons solides pour croire que ce sont des hommes défunts qui gardent les trésors, il est bon d'avoir des cierges bénis. Rien n'a été oublié, et à nous deux, nous avons la mémoire du diable, qui, paraît-il, se souvient des moindres détails du paradis perdu. À genoux, Louis, disons un De Profundis, et au nom de Dieu, conjurons ces morts de nous dire si l'on peut faire quelque chose pour leur repos éternel. »
Les cierges allumés éclairaient à demi les deux fossoyeurs agenouillés, et, tout en vacillant sous les bouffées du vent qui descendait s'engouffrer dans ce trou, il faisait passer sur les figures blafardes de ces gens d'étranges lueurs. Il priait pourtant de bon cœur, et le psaume des morts allait s'achevant lorsqu'un vagissement sourd, s'élevant de la surface de la mer, passa en effleurant la crête du morne. Un grésillement sortit des lanternes qui projetèrent une vive lumière dans le fond de cette tombe où gisaient pêle-mêle vivants et squelettes. Puis l'obscurité la plus profonde enveloppa le tout. C'était la tempête qui posait son pied sur terre et passait en hurlant sur la solitude de l'île aux œufs. Jacques et Louis tâtonnèrent quelque temps dans l'obscurité. Puis, mettant en travers leur vareuse de toile goudronnée sur deux branches d'arbres qu'un éclair leur avait montrées gisantes sur le bord du trou, ils se tapirent dans un coin et rallumèrent une de leurs lanternes. Jacques se prit à dire alors
« Je crois, Louison, que mes cierges bénis sont cause de tout ce tintamarre. Si j'ai bonne souvenance, l'amiral devait être protestant, et c'est lui qui commande ici. »
« Comment, l'amiral ? L'amiral de quoi ? »
reprit d'un ton de mauvaise humeur Maître Louis.
« L'amiral du brouillard !»
continua gravement Jacques.
« Connais pas !»
murmura flegmatiquement Louis.
« Eh bien, tu vas le connaître !»
reprit Jacques.
« Car Paracelse dit que celui qui voudra s'appliquer à la recherche d'un trésor prétendu caché doit examiner la qualité du lieu. Non seulement par la situation présente de ce lieu, mais en rapport à ce que les anciennes histoires en disent. Allons, serre-toi près de moi et au lieu de te souffler dans les doigts, ce qui appelle le vent, comme tu le sais bien, viens te réchauffer les mains sur les vitres du fanal. Il fait un assez joli courant d'air comme cela sans que tu t'en mêles. Et j'ai bien peur d'être obligé d'abréger crainte de m'enrhumer. »
Partie 2. L'amiral du brouillard.
Il y a plus de 150 ans que ces choses se sont passées. Je ne sais trop comment cela se fait, mais moi, qui n'ai pas la mémoire des dates, j'ai tellement entendu raconter les détails de cette histoire par le grand-père de Jean Paradis, notre ancien voisin de la rue du Vieux-Pont, que je puis encore te la servir toute chaude, bien que lui-même la tînt aussi de son grand-père. L'Angleterre était alors gouvernée par une reine, du nom de la reine Anne. Elle avait une cour magnifique et des palais, comme Julien sait en construire lorsqu'assis sur le gaillard derrière de la brunette. Il nous raconte les mille et une nuits. Ceux qui vivaient en ces temps-là n'étaient pas des sots, paraît-il. Ils s'habillaient en soie et en velours, mangeaient dans des plats d'or et buvaient du meilleur. Néanmoins, l'époque avait son petit défaut, assurait l'arrière-grand-père de Jean. Ceux qui déplaisaient à la reine avaient le cou coupé. Or, un soir, il y avait fête dans un de ces beaux palais royaux. On dansait, on riait, on jouait gros jeux, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, car la reine Anne avait ri à deux reprises différentes, lorsque tout à coup les figures se rembrunirent. L'amiral Walker causait dans l'embrasure d'une fenêtre avec la jeune Miss Root, et, comme ses amours étaient vus de mauvais œil par la reine qui daignait destiner la jeune fille à l'un de ses favoris, en les apercevant en doux tête-à-tête, elle avait froncé le sourcil, ce qui fit frémir toute la salle. Néanmoins, comme l'orchestre allait son train, et que la reine s'était mise à danser un menuet, chacun vit bien que l'orage n'éclaterait que plus tard. Et, dès la troisième minute, tout le monde avait oublié l'incident, à l'exception toutefois de Walker et de la reine Anne. La nuit se passa à festoyer, et le jour suivant à bien dormir pour mieux s'amuser lors de la prochaine fête. « Vois-tu, Louison, c'est toujours l'habitude chez les gens de haut ton. Le jour, ils n'ont d'autre souci qu'à bien manger et bien se reposer pour être plus frais la nuit. Et pendant ce temps, les pauvres souffrent, travaillent et trempent de leur sueur le pain de misère. Le lendemain soir, danses et chants avaient repris possession du palais de la reine. » Il regorgeait d'invités. Seule Miss Root et l'amiral Walker n'y étaient plus. Pendant qu'on sautait ainsi à Londres, le grand-père du grand-père de Jean Paradis finissait de charger tranquillement son navire, le Neptune, à La Rochelle, petite ville du pays de France. Sa dernière pacotille était tissée à bord, et, du vent plein ses voiles, le Beaupré tourné vers Québec, il commençait à labourer l'océan de son taille-lame. Tout aurait bien été pour lui, et ce voyage se serait accompli comme les autres, si la reine Anne ne s'était pas mis en tête de faire épouser Miss Ruth par un de ses favoris. On était alors en pleine guerre avec la France et le Canada supportait bien sa quote-part, car les Bostonnais faisaient de leur pis pour se l'annexer. Heureusement que nous avions à notre tête un fier gouverneur du nom de Vaudreuil. Il n'était pas homme à s'en laisser imposer, et sur son ordre, nos arrière-grands-pères prirent la peine de mettre de nouvelles mèches à leurs fusils. C'était la capsule du temps, paraît-il, et cela ne présageait rien de bon pour l'anglais. Tout marchait à ravir, le ciel était gros de plaies et bosses, et chacun se frottait les mains, croyant bien flanquer une bonne tripotée à l'autre. Pendant ce temps-là, le navire du Père Paradis boulinait toujours son brin de chemin. Tant et si bien qu'une belle nuit, il se trouva au milieu d'une flotte de 80 vaisseaux. Le vieux marin se gratta l'oreille, arpenta fiévreusement son banc de car, ajusta sa lunette et fit ce que tu aurais fait en pareil cas, maître Louis. Mais il n'y avait pas à tortiller, le Neptune nageait au milieu de l'anglais, et force lui fallut de baisser pavillon. On fit un bon feu dans les faux-ponts du pauvre navire canadien, et une demi-heure après, le capitaine Paradis, tristement accoudé sur le bastingage anglais, regardait brûler sa petite fortune, pendant que sous lui, louvoyait tranquillement l'Edgar, vaisseau amiral de 70 canons, commandé par le Walker de la reine Anne. C'était triste, mais c'était comme cela. Il fallait digérer ce malheur sans rien dire, car derrière l'Edgar filaient les 79 gros vaisseaux de ligne de l'ennemi. Que faire en pareil cas, Louison? Se tenir tranquille, n'est-ce pas? Eh bien oui, je suis de ton avis, et ce qui va te consoler, c'est que c'était aussi celui de l'arrière-grand-père de Jean. Ah, c'était un rude pilote tout de même, qui connaissait le fond de son Saint-Laurent sur le bout des doigts. À un cheveu près, il savait où gisait le moindre récif, le plus petit banc de sable, les cailles les plus inoffensives, et comme cette réputation-là n'était pas volée, elle s'était répandue parmi les Bostonnais qui virent dans cette capture une cause providentielle. À bord, on le nourrit bien, on le régala même, il avait un beau cadre pour dormir. Bref, on le traitait comme un véritable officier, mais toutes ses attentions passaient sur la rude écorce de paradis, sans le rendre plus flexible. Pour âme au monde, il n'aurait voulu toucher à la barre du gouvernail, car avant d'être marin, il était canadien-français. Tout avait été mis en œuvre pour venir à bout de cette volonté de fer, sans pouvoir la mordre, et tout en discutant à force de suivre la vague, on se trouvait déjà par le travers de l'île aux œufs. Cette même île où nous jasons si mal à l'aise ce soir. On était alors au 22 août 1711. L'Edgar, immobile sur les flots, semblait dormir repu de toute cette ferraille qu'il s'en allait vomir sur notre pauvre ville de Québec. Le capitaine Paradis, aussi calme et aussi tranquille, fixait son œil terne et mélancolique sur un petit nuage blanc qui ne bougeait pas au fond du firmament. Tout à coup, le flocon blanchâtre fit un léger mouvement dans la direction du sud. Un éclair passa dans le regard du prisonnier, mais pas un muscle ne broncha. En ce moment, l'amiral Walker, en robe de chambre, en pantoufles et sa longue vue sous le bras, tapa familièrement sur l'épaule du père Paradis.
« Eh bien, capitaine, nous tenons le beau temps. Votre présence à bord me porte chance. Si ce petit vent continue à fraîchir, j'espère pouvoir jeter l'ancre bientôt devant votre vieux Québec. Qu'en dites-vous? »
Monsieur l'amiral, il s'est perdu plus d'une ancre en face du Cap Diamant.
Bah, patriotisme creux, que toutes ces phrases, capitaine. Et si j'ai bonne mémoire, un de ses prédécesseurs, Kirk, n'a rien perdu là, puisqu'il a tout pris.
C'est vrai, cela, monsieur l'amiral, mais il y allait avec précaution, votre prédécesseur Kirk. Il a dû s'y prendre en deux fois, et cela à 12 bons mois de distance avant de pouvoir s'ancrer solidement par chez nous.
Malin que vous faites, vous savez bien pourtant que Kirk n'avait pas à son bord un pilote expérimenté comme monsieur Paradis, ex-capitaine du Neptune. Est-ce aujourd'hui que vous daignerez condescendre à prendre la barre, capitaine?
Je suis votre prisonnier, monsieur l'amiral, et non pas votre pilote.
À mesure qu'il parlait, le vent fraîchissait et il s'était déclaré franc-sud, et dans le lointain commençaient à se dessiner les sept îles. L'Edgar, ployé sous ses voiles que l'on venait de hisser sous un ordre de l'amiral, filait à la diable, serré de près par son nombreux convoi. C'était beau de voir cela, Louison, et j'aurais voulu entendre raconter ces choses-là par le grand-père Paradis. Les matelots chantaient gaiement en tirant sur les poulies, les vergues craquaient sous le poids de la toile qui se gonflait, mais dans son coin, l'œil du capitaine Paradis lançait toujours ses éclairs fauves. Au-dessus de tout cela, la nuit arrivait à tire-d'aile et promettait une fière course à l'anglais lorsque tout à coup une voix se fit entendre à l'avant.
« Des brisants! À tribord!
Love for love !»
hurla l'amiral en se rapprochant de Paradis. La frégate soumise au gouvernail fit tête au vent pendant que l'amiral Walker disait à son prisonnier
« Capitaine, il y va de notre vie à tous. Choisissez entre la barre et le bout de la grande vergue. »
Jean Paradis eut un nouvel éclair, mais il reprit d'une voix lente.
« Je vois bien qu'il est inutile pour un Canadien français de vous résister. Je capitule, monsieur l'amiral, et, sauf le respect que je vous dois, je prends pour 2 heures le commandement du vaisseau. Sur mon âme, il ne lui arrivera rien. Faites carguer les voiles. Ne laissez que la toile des huniers, ainsi que la misaine, et dites-leur ça en anglais. »
Un silence de mort régnait à bord. On n'entendait que les hurlements de la tempête qui arrivait dans le lointain, et les bruits de la manœuvre commandée par le capitaine. L'Edgar, docile à la moindre pression de la rude main du Canadien, se cabrait comme un cheval que l'on dompte. Le long des sabords, on voyait filer les lueurs de la mer qui, étincelante, se brisait à quelques encablures de là sur les récifs. Et déjà, l'île aux œufs était dépassée lorsqu'un coup de canon se fit entendre à l'arrière. Puis ce fut 2, puis 3, puis 8, puis 15. On eût dit que la flotte anglaise faisait le siège de ses cailles moutonneuses. Bientôt, un immense cri de détresse s'éleva et domina toute cette détonation. Il fut suivi d'un éclat de foudre, et alors les gens de l'Edgar virent ce que n'a jamais vu l'œil humain. Une gerbe éblouissante sortit du fleuve, la colonne de feu monta dans les airs, luttant de force avec l'ouragan qui cherchait à l'empoigner, et, dans sa lutte échevelée, l'immense ruban rouge éclaira en serpentant le plus grand tableau d'horreur que puisse présenter la mer. Aussi loin que la vue portait, le Saint-Laurent était rouge d'uniformes anglais. Partout, des têtes humaines et vivantes se heurtaient contre les fronts morts et des centaines de nageurs cherchaient à se délier de tout un monde de cadavres qui, insoucieux, dansaient sur les crêtes des vagues. Au loin, sur l'île aux œufs, 8 frégates éventrées recevaient dans leurs coques ébarouies les lames qui venaient s'y engouffrer, et cette gerbe miroitante qui courait se perdre dans les replis de la tempête était tout ce qui restait du vaisseau poudrière.
Note. Ce désastre est raconté de la manière la plus saisissante et la plus dramatique par la mère Juchereau-Saint-Denis dans son histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec.
Un cri rauque sortit de la chambre du commandant et un homme en robe de chambre et en pantoufles s'élança sur la dunette de l'Edgar en criant
« Le léopard! Qu'est devenu le léopard? »
C'était l'amiral Walker. Hélas, le léopard était émietté, comme les autres, sur les terribles crans de l'île. Et ce qui est pénible à dire, à son bord se trouvait Miss Root, la fiancée du commandant. Le pauvre amiral, resté en face de sa fiancée et de sa flotte perdue, pleurait à chaudes larmes. Et je crois que si le père Paradis eût entendu ses sanglots, une demi-heure auparavant, il n'aurait pas jeté l'anglais à la côte d'une main aussi ferme. Mais que veux-tu, Louison? Avant tout, on se doit à son pays, et il n'y a pas de fiancé qui tienne lorsqu'on se prend à songer à tout le mal et à toute la misère que ces gros vaisseaux de guerre pouvaient importer dans la patrie. L'arrière-grand-père de Jean se frotta les mains en se disant qu'il avait bien fait, et moi, qui n'ai rien appris à l'école et ne sais que les grosses choses qui façonnent un ignorant. Je suis d'avis qu'en ce moment, le père Paradis était devenu grand devant son pays et devant son Dieu. L'amiral pleura toutes ses larmes en 5 minutes, car, une fois son désastre bien constaté, il se tourna flegmatiquement vers le capitaine et lui dit froidement
« Monsieur, je vous avais donné le choix entre la barre ou la drisse de mon hunier. Vous serez satisfait de moi, vous aurez les deux.
Ahoy, lieutenant, faites monter le capitaine d'armes. Brown, mettez vos fers les plus solides à ce gaillard-là et faites-le déposer à fond de cale en attendant que justice se fasse. »
Ce qui fut ordonné fut fait. Pendant 6 longues semaines, le père Paradis, enchaîné comme un coupe-jarret, ne vit ni ciel ni jour, comme dit la chanson. De temps à autre, le geôlier, en lui jetant sa pitance, lui donnait par-ci, par-là, quelques nouvelles. C'est ainsi qu'il apprit comment Walker s'était fiancé à Miss Root. Le soir même du bal chez la reine Anne, un lord quelconque lui avait remis son brevet d'amiral avec ordre de partir la nuit même pour Boston. De grand matin, le nouveau commandant s'était rendu au port d'embarquement et là, pour éviter les soupçons, il avait mis sa fiancée à bord du Léopard, bien décidé à se marier devant tout l'état-major de son escadre le jour où la prise de Québec aurait fait tomber tout le Canada sous la domination anglaise. Devant le beau Walker, la colère royale aurait-elle pu résister plus longtemps que la citadelle de Vaudreuil? Mais hélas, le bras de fer du vieux Paradis avait éparpillé tous ses rêves. Et maintenant, la fiancée de l'amiral dormait dans les sables de la côte du Labrador, en face de l'île aux œufs, ayant 3000 cadavres anglais pour monter la garde autour de son cercueil virginal. Tout avait été perdu dans la catastrophe, et les quelques bâtiments chargés de blessés et de survivants n'avaient pu même remporter le lourd trésor de la flotte que le geôlier ébahi avait vu enterrer sur l'île, au milieu d'un morne qui, d'après ses calculs, ne devait pas être loin de l'endroit nommé aujourd'hui la pointe aux Anglais. Ces causeries aidaient à tuer le temps en attendant qu'à son tour le temps s'en vînt tuer le capitaine. Lorsqu'un beau jour, un choc infernal ébranla la cale où gisait l'arrière-grand-père de Jean. Il perdit connaissance. Et à quelques jours de là, il se retrouvait dans une maisonnette bâtie sur les bords de la Tamise qui est, m'a-t-on dit, le fleuve des Anglais.
Tout ensanglanté, il avait été ramassé sur le rivage par de pauvres pêcheurs de l'endroit, qui, le voyant à l'article de la mort, l'avaient porté jusque-là. Le pauvre amiral Walker n'avait pas eu de chance, paraît-il. En revoyant les côtes de son pays, il avait involontairement songé à la réception que lui ferait la reine Anne. Et, prenant une résolution bien triste pour tout son monde à bord, il s'en était allé mettre un tison dans les poudres de la Sainte-Barbe et s'était fait sauter. Le capitaine Paradis et une couple de matelots furent seuls sauvés. Son bonheur ne le quitta pas. Il parvint à passer en France et à trouver là le commandement d'un vaisseau, l'Espérance de Nantes, en partance pour le pays. La traversée fut heureuse et, chose extraordinaire, à cette saison avancée, il ne rencontra aucune brume sur les bancs de Terre-Neuve. Ce navire filait comme s'il eût été béni par le pape, et déjà il était arrivé à la hauteur des sept îles lorsqu'une accalmie se fit, et le capitaine se trouva saisi par le brouillard qui le força à rester stationnaire. Debout sur son banc de car, l'oreille et l'œil au guet, il cherchait à interroger ce vague gris qui absorbait l'horizon. Peut-être songeait-il à l'anglais, lorsque tout à coup il entrevit la silhouette d'un vaisseau. Puis ils furent deux, puis huit, puis vingt, qui s'avançaient à travers l'impénétrable banc de brume. Le père Paradis croyait rêver, et pourtant, c'est horrible à dire, mais il n'y avait pas à en douter, c'était l'Edgar, qui glissait silencieusement sur le flot, suivi de son convoi. À mesure qu'ils filaient, le brouillard semblait suivre leur sillage, et bientôt, à l'exception de l'Edgar et de quelques autres, tous doublèrent la pointe aux Anglais, entrèrent dans la passe et allèrent s'évanouir dans les récifs de l'île aux œufs. C'était Walker. Depuis, chaque fois que sur le golfe la brume s'étend, froide et serrée, l'amiral du brouillard revient croisé en ses parages. Il s'en va baiser au front sa blanche fiancée et derrière lui voguent les vaisseaux surpris par la brume dans ces endroits désolés. Sans que les matelots le sachent, il les entraîne à sa suite et chaque année, les nombreux et terribles naufrages de l'île aux œufs et de ses environs te montrent, Louison, que le triste cortège ne fait jamais défaut à celui qui, honteux de son entreprise de sacrilège contre notre pays, n'aime plus à voguer maintenant que dans le silence et par les ténèbres. Hubert Aymon a fait sa rencontre dernièrement et le pauvre garçon a eu toutes les peines du monde à s'en débarrasser. Ce n'est qu'en faisant un vœu à la bonne Sainte-Anne du Nord qu'il a réussi. Ah, pourvu qu'il ne fasse pas de brume pour retourner à la goélette. Allons, Louison, allonge-toi le coude. Or, la pluie a cessé. Inspecte le temps et siffle-moi ton air maintenant, nous avons besoin de vent. Tout est manqué pour cette fois car j'ai négligé un détail important. Ah, si j'avais réussi à me procurer une main de gloire, ce ne serait ni le feu des Roussis, ni le pleurard de Gaspé, ni le braillard de la Madeleine, ni l'amiral du brouillard qui me ferait peur. On passe partout avec cela, et la main de gloire ne connaît pas d'obstacle. Allons, lève l'ancre, mon pauvre Jacques, ça n'est pas la première fois que tu t'en retournes gros Jean comme devant, et mettons le cap sur la chaloupe.
L'amiral du brouillard, partie 3. La main de gloire. 2 mois plus tard, je lisais dans le journal de Québec « Ce matin, le brigantin La Brunette est arrivé au quai de la rue Saint-Paul avec un chargement de harengs du Labrador. Ils seront vendus à l'enchère mercredi prochain. Avis aux ménagères et surtout aux marchands de la campagne. » Au jour désigné, je faisais partie de la foule des badauds qui encombraient le quai Renault. Je me laissais aller aux profondes pensées qu'inspire toujours un hareng sort lorsqu'il change de propriétaire. J'étais perdu au milieu des émotions de la vente lorsque je sentis une main rude s'appuyer sur mon épaule. C'était Maître Jacques, que j'avais connu à Natashquan. En vrai marin qu'il était, il me donna une poignée de main à me broyer les os. Puis, faisant un signe tout particulier qui consistait à lever le coude et à cligner de l'œil, il me dit en sourdine
« Je suis content de vous rencontrer. Descendons ensemble à la goélette qui est amarrée là, au bout du quai. Nous prendrons une larme et vous me donnerez un renseignement. »
Quand nous fûmes arrivés, il me demanda gravement, sans aucun préambule, mon billet de journaliste. Le surlendemain, on devait exécuter un malheureux meurtrier et il tenait à causer avec lui avant l'heure fatale. J'essayai de le dissuader de son projet, mais il se prit alors à me raconter l'histoire du trésor de l'Anglais. Puis, tirant de son coffre un petit livre tout crasseux, il tourna rapidement quelques feuillets jaunis et me lut ce qu'Albert le Grand dit de la main de gloire.
On prend la main coupée d'un pendu qu'il faut lui avoir acheté avant la mort. On la plonge, en ayant soin de la tenir fermée, dans un vase de cuivre contenant du zinc et du salpêtre, avec de la graisse de spondylis. On expose le vase à un feu clair de fougère et de verveine, de sorte que la main s'y trouve au bout d'un quart d'heure parfaitement desséchée et propre à se conserver longtemps. Puis, ayant composé une chandelle avec de la graisse de veau marin et du sésame de Laponie, on se sert de la main comme d'un martinet pour y tenir cette chandelle allumée. Et, par tous les lieux où l'on va, la portant devant soi, les barres tombent, les serrures s'ouvrent et toutes les personnes que l'on rencontre demeurent immobiles. Je vous en prie, monsieur Henri, « donnez-moi votre passe que je vois ce malheureux et puisse faire des affaires avec lui. Vous savez ce qu'Albert le Grand en dit, vous ne serez pas assez cruel pour entraver le moyen que j'ai de faire fortune. »
Je dus céder aux supplications de Jacques, il eut mon billet d'entrée, et, à mon grand étonnement, j'appris plus tard que le pendu lui avait donné la propriété de son bras droit, moyennant finance. Il y eut bien quelques scandales à la salle d'anatomie, mais les étudiants en droit prirent fait et cause pour le supplicier et crièrent sur tous les toits que chacun a le privilège de disposer à son gré de tout ce qui lui appartient. Pendant 2 ans, je fus sans nouvelles de Maître Jacques et, déjà, j'avais oublié les étranges confidences qu'il m'avait faites à bord de la Brunette, lorsqu'un charmant conteur, l'abbé Ferlin, me remit toute vivace la mystérieuse histoire de l'île aux œufs. « Parfois, dit-il, le pêcheur qui s'est arrêté près du naufrage anglais assiste à des scènes merveilleuses. Une étrange vision se déroule sous ses yeux. Les eaux sont unies comme une glace et le temps parfaitement calme. Tout à coup, la mer se soulève et s'agite au large. Les vagues se dressent comme des collines, se poursuivent, se brisent les unes contre les autres. Soudain, au-dessus de ces masses tourmentées, apparaît un léger vaisseau portant toutes ses voiles dehors et luttant contre la rage des ondes bouillonnantes. Aussi rapide que l'hirondelle de mer, comme elle, il touche à peine les eaux. Sur la dunette, sur le gaillard, dans les haubans, partout se dessinent des figures humaines, dont le costume antique et militaire convient à des soldats d'un autre siècle. Le pied posé sur le beaupré et prêt à s'élancer vers le rivage, un homme qui porte les insignes d'un officier supérieur se tient dans l'attitude du commandant. De la main droite, il désigne au pilote le sombre cap qui grandit devant eux. Sur son bras gauche s'appuie une femme drapée de longs voiles blancs. Le ciel est noir, le vent siffle dans les cordages, la mer gronde, le vaisseau vole comme un trait. Encore quelques secondes et il va se broyer contre les rochers. Derrière lui, une vague, Une vague au large flanc se lève, s'arrondit et le porte vers le cap Désespoir. Des cris déchirants au milieu desquels on distingue une voix de femme retentissent et se mêlent au bruit de la tempête et aux éclats du tonnerre. La vision s'est évanouie. Le silence de la mort s'est étendu sur les eaux. Le vaisseau, le pilote, l'équipage épouvanté, les soldats, l'homme aux gestes altiers, la femme aux longs voiles blancs, ont disparu. Le soleil brille sur une mer calme et étincelante. Les flots viennent mollement caresser le pied du cap Désespoir. Le pêcheur est resté seul, à côté des varangues vermoulues, du naufrage anglais. Cette émouvante légende était publiée au rez-de-chaussée du journal. Plus loin, en remontant à la colonne des affaires, on lisait « Vente par le shérif Joseph Bonneau, père, versus Jacques Gabriel, marchand, capitaine, caboteur. » Une goélette nommée « La Brunette » avec voile, ancre, cambuse, cordage et gréement. Telle qu'elle est ancrée au quai des Indes pour être vendue au dit quai des Indes le premier jour d'octobre prochain à 11h de l'avant-midi. Albert le Grand avait eu raison, la main de gloire ne connaissait pas d'obstacle. Elle venait de renverser toute l'honnête aisance d'un homme intelligent mais dévoyé. Et elle avait laissé planer sur le cerveau du pauvre Jacques une parcelle de ces brumes que hante, avec tant de complaisance, le terrible amiral du brouillard.